qu'est-ce qui est digne de foi? C'est un propos maintenant fort répandu que, au fond, l'essentiel, c'est de croire à quelque chose. Alors, pour échapper au débat que peut provoquer la foi, pour échapper à l'obligation de s'affronter aux falaises que nous représente parfois la révélation et son caractère abrupt, étonnant, paradoxal, bouleversant, chacun dit « bon, moi je crois, alors je crois en moi ». Pour moi qui me connais, j'avoue que j'ai un peu de peine à comprendre ça, mais bon. Je crois en l'homme, je crois en l'avenir, qui d'ailleurs est pour demain. Je crois au progrès. Bon. C'est d'ailleurs cette remarque, l'essentiel c'est de croire en quelque chose, n'est pas fausse. Mais elle est un peu difficile dans la mesure où... elle sollicite une tolérance. Car il est vrai que celui qui dit ben, « l'essentiel, c'est de croire en quelque chose », au fond, réclame par avance que sa croyance, son point de vue, son opinion soient tolérés avec une égale irrationalité, au fond, pour toutes les croyances. Toutes les croyances étant également irrationnelles, peuvent être renvoyées dos à dos, peuvent être posées comme équivalentes et sont également indiscutables, puisque ce qui est indiscutable, c'est l'irrationnel. Si vous voulez clouer le bec à votre interlocuteur, soutenez une bonne grosse absurdité, vous avez échappé au danger de la discussion. Or, une telle tolérance de paresse, en quelque sorte, est en réalité un discrédit. Et bien souvent, ce que l'on tolère, on le méprise secrètement en le rangeant justement dans l'ordre des opinions, des goûts et des couleurs. Or, évidemment, un croyant a quelque peine à voir sa foi et sa vie assimilées à un sentiment subjectif, après tout, tolérable parmi d'autres. Ce qui m'a conduit donc à poser cette question, qu'est-ce qui est digne de foi? C'est cette opinion, puisque la philosophie discute l'opinion. L'essentiel est de croire à quelque chose. Toutefois, il est évident, mais je ne m'appesantirai pas là-dessus, que l'on recule devant un certain nombre de convictions qui, tout indiscutables qu'elles soient, apparaissent comme démentes ou folkloriques. On évoque par exemple les convictions de certaines sectes qui font que des gens se suicident pour aller sur la Lune ou que sais-je. On a un peu de peine à dire que finalement l'essentiel c'est de croire à quelque chose. Et je transformerai la question en disant, peut-on ne croire à rien ? Est-il possible de ne croire à rien ? On peut même formuler la question ainsi, en disant un athée absolu, un athée radical, est-il possible ? Que serait un athée radical ? Ce serait quelqu'un qui laisserait la stèle vide. Vous savez que sur la stèle, on a mis un veau d'or. Chacun d'entre nous y met un veau d'or. Votre veau d'or, c'est, que sais-je, votre voiture, votre carrière, votre maison, votre maîtresse, etc. Peu importe. Beaucoup se croient athées qui sont au fond idolâtres. C'est-à-dire qui ont mis quelque chose d'autre sur la stèle. C'est en ce sens que un véritable athéisme qui témoignerait d'une lucidité sans larmes, d'une lucidité qui garderait les yeux ouverts et froids, est une attitude héroïque, au fond, de quelqu'un qui aurait refusé de donner à son désir sa pâture, qui aurait refusé de projeter d'une manière ou d'une autre sur une stèle, dans une figure en or, ce qui est justement la projection de son désir. Il y a donc une ascèse radicale de quelqu'un qui est ou qui serait véritablement athée, au sens où l'ascèse, ça serait précisément cette lucidité à l'égard de son désir, et la capacité à laisser ce désir vide. Un des plus grands témoins et un des meilleurs témoins de l'athéisme, qu'est Sartre, dit bien « l'homme est désir de Dieu ». Et être athée, c'est dire « oui, l'homme est désir de Dieu, mais ce désir ne doit surtout pas se projeter en une idole quelconque. Pouvons-nous vivre sans croyance? Peut-on laisser la stèle vide ?» Je me permets de partager avec vous une des pages qui a... Enfin, ça vous est égal, mais... Vous savez, dans la biographie intellectuelle, si j'ose dire, de chacun, il y a des pages retentissantes. Et je vous lis une page qui a bouleversé ma jeunesse. Je crois que j'avais 16 ans, qui est la dernière page de La tentation de l'Occident de Malraux. Malraux a écrit La tentation de l'Occident, il avait 20-21 ans, quelque chose comme ça. Et... Et il écrit dans les dernières pages, le texte est un peu long, mais il est très beau. Malraux est jeune, donc il fait du style. Marqué, il en a fait jusqu'au bout. Mais il traduit bien ce que serait l'exigence radicale d'un athéisme. Et dans ma jeunesse, je continue d'aimer ce texte comme un compagnon. Pour détruire Dieu, et après l'avoir détruit, l'esprit européen a anéanti tout ce qui pouvait s'opposer à l'homme. Ce qui, d'ailleurs, devant le tableau du combat de Jacob avec l'ange, est hautement significatif. Parvenu au terme de ses efforts, il ne trouve que la mort. Avec son image enfin atteinte, il découvre qu'il ne peut plus se passionner pour elle. Et jamais il ne fit d'aussi inquiétante découverte. Il n'est pas d'idéal auquel nous puissions nous sacrifier, car de tous, nous connaissons les mensonges, nous qui ne savons point ce qu'est la vérité. L'ombre terrestre qui s'allonge derrière les dieux de marbre suffit à nous écarter d'eux. Patrie, justice, grandeur, vérité, laquelle de ces statues ne porte de telles traces de mains humaines qu'elle ne soulève en nous la même ironie triste que les vieux visages autrefois aimés. Comprendre ne permet pas toutes les démences. Et cependant, quels sacrifices, quels héroïsmes injustifiés dorment en nous. Certes, il est une foi plus haute, celle que proposent toutes les croix des villages, et ces mêmes croix qui dominent nos morts. Elle est amour, et l'apaisement est en elle. Je ne l'accepterai jamais. Et je ne m'abaisserai pas à lui demander l'apaisement auquel ma faiblesse m'appelle. Europe, grand cimetière où ne dorment que des conquérants morts et dont la tristesse devient plus profonde en se parant de leurs noms illustres, tu ne laisses autour de moi qu'un horizon nu et le miroir qu'apporte le désespoir, vieux maître de la solitude. image mouvante de moi-même, je suis pour toi sans amour. Comme une large blessure mal fermée, tu es ma gloire morte et ma souffrance vivante. Je t'ai tout donné et pourtant je sais que je ne t'aimerai jamais. Sans m'incliner, je t'apporterai chaque jour la paix en offrande. Et voici la dernière phrase. Lucidité avide, je brûle encore devant toi, flamme solitaire et droite, dans cette lourde nuit où le vent jaune crie, comme dans toutes ces nuits étrangères où le vent du large répétait autour de moi l'orgueilleuse clameur de la mer stérile. Que nous dit ce texte? Il nous dit, voilà, la condition pour le dernier être que je puisse aimer, c'est moi. Et je n'ai aucune raison de m'aimer. Et il ne reste donc qu'une espèce de lucidité absolue, orgueilleuse, héroïque, qui coïncide avec une solitude, évoqué donc de manière quelque peu littéraire, mais bon, sans que ce soit non plus trop facile, donc à travers les thèmes de la nuit, du vent. Tous les idéaux, toutes les statues portent les mains des hommes qui les ont façonnées, et comme toutes les statues portent les mains des hommes qui les ont façonnées, nous devons résister au besoin de croire. Cependant, ce besoin de croire, ce désir de croire, est-il si facile à surmonter? Le propos que je développerai passera par trois moments. Le premier moment, je développerai l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas faire autre chose que croire. Croire est la loi même de la vie. Et je donnerai au mot croire le sens de confiance. Dans un deuxième temps, je tenterai d'éclairer rapidement, parce que d'autant plus que j'ai déjà fait une conférence là-dessus l'année dernière, non pas que vous y ayez assisté, mais j'ai peu de plaisir à me répéter. Écoutez-la sur le site. Donc j'essaierai d'éclairer rapidement les rapports entre croire et savoir, et je donnerai donc au mot croire le sens de croyance. Première partie, confiance. Deuxième partie, croyance. Enfin, pour répondre à la question qui nous est proposée ce soir, qu'est-ce qui est digne de foi, je développerai la troisième acception du mot croire, qui est celle de la foi. Un texte vous a été distribué, on reviendra peut-être dessus, je n'en suis pas sûr. On verra, car je ne sais pas exactement comment évoluera mon exposé. Mais en tout cas, au cœur de ce texte, on peut dégager une définition de ce qu'est croire dans le deuxième paragraphe de la conclusion. Donc deuxième paragraphe qui commence par « pour le montrer ». À la deuxième ligne, vous avez une des définitions les plus simples et convaincantes de ce que c'est que croire. L'acte de la foi, c'est de croire, c'est un acte de l'intelligence déterminé à un seul parti sous l'empire de la volonté. C'est un acte de l'intelligence déterminé à un seul parti sous l'empire de la volonté. Vous partez de chez vous et vous vous dites, ai-je fermé le gaz? Ou tout à l'heure, tiens, je suis venu à vélo. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien mis ma serviette sur le porte-bagages? Alors, j'ai tendu la main derrière, et j'ai vérifié que la serviette était bien sur le porte-bagages. Si une deuxième fois, je me pose la question, et si je me dis, ai-je bien vérifié que le gaz est fermé? Ai-je bien vérifié que la serviette est sur le porte-bagages? il faut vite téléphoner au SAMU. Quand j'étais étudiant, nous avions des stages à l'hôpital du Vinatier, et le premier patient que j'ai rencontré à l'hôpital du Vinatier est justement un pauvre homme qui n'arrivait pas à partir de chez lui parce qu'il vérifiait tout le temps s'il avait fermé le gaz. Donc il faisait des allées et venues incessantes pour savoir s'il avait vérifié le gaz, s'il a bien vérifié que le gaz était fermé. Hors de cela, il n'aura jamais aucune preuve. Il faut bien qu'à un moment, il s'arrête à un parti, j'ai fermé le gaz. Il faut bien qu'à un moment, il fasse un pas de plus. Et c'est en cela qu'il y a une nécessité vitale de la croyance, qui est le pacte qui nous relie au réel dans l'action. Et ce pacte, je ne sais d'où il vient, il est enfoui dans les profondeurs les plus obscures de notre conscience, mais il est absolument vital. Janet, qui fut un grand psychologue du début du XXe siècle, avait beaucoup étudié ces patients qu'il appelait les malades du doute, et il leur donnait le nom de psychasthéniques. Des gens qui avaient une psyché, une âme affaiblie, comme si le ressort qui les relie à l'existence était cassé. Une confiance de fond nous relie à l'existence. Un acte de foi préalable à toute existence est nécessaire. Et c'est en ce sens qu'une lucidité qui se voudrait, comme celle que Malraux exprime, absolument cristalline, serait insoutenable. C'est peut-être le cas de Hamlet. Mais justement, Hamlet est un psychasthénique exemplaire. Pourquoi ce pacte ? Trois exemples de ce pacte. Le premier exemple qui nous montre que une confiance implicite est nécessaire, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans le doute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les plus sceptiques des sceptiques, dont Hume, qui est pour moi un compagnon très cher, c'est vraiment des philosophes que j'aime. J'ai le grand désir, quand j'aurai traversé le rideau des apparences, de rencontrer Hume. J'ai une grande curiosité de rencontrer Hume. Bon, il y aura peut-être un peu de monde autour de lui, à moins qu'on ne soit pas au même endroit, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment un bon philosophe, Hume. C'est peut-être même le plus sagace de tous. Et alors, Hume, va au fond du scepticisme, c'est-à-dire l'impossibilité radicale de fonder nos prévisions les plus habituelles, nos connaissances les plus habituelles, comme demain il fera jour, n'en conclut pas qu'il faut suspendre son jugement, mais que on est bien obligé de croire. Je vous lis par exemple une page de l'enquête sur l'entendement humain, dans laquelle il dit un pyrrhonien, c'est-à-dire un sceptique, un pyrrhonien ne peut compter que sa philosophie ait aucune influence constante sur l'esprit, ni que, si elle en avait, cette influence dût être bienfaisante pour la société. Au contraire, il est obligé de reconnaître, si tant est qu'il reconnaisse quelque chose, que toute vie humaine périrait forcément si ses principes, les principes sceptiques, devaient universellement et fermement prévaloir. Tout raisonnement, toute action cesserait aussitôt, et les hommes resteraient dans une totale léthargie jusqu'à ce que les nécessités de la nature, n'étant plus satisfaites, missent fin à leur misérable existence. Il est vrai qu'un événement si fatal est très peu à craindre. La nature est toujours plus forte que les principes. Et un sceptique a beau se jeter soi-même et ou jeter autrui dans un étonnement et un embarras momentané par ses profonds raisonnements, l'événement de la vie, le premier venu et le plus trivial, mettra en fuite tous ses doutes et tous ses scrupules. Jamais personne, comment Hume, ne se demande s'il faut passer par la porte ou par la fenêtre. Notre nature, c'est un thème pascalien, Hume est un grand lecteur de Pascal, notre nature est plus profonde que notre raison, et même si notre raison est impuissante à prouver qu'il vaut mieux passer par la porte que par la fenêtre, même si notre raison est impuissante à prouver que demain il fera jour, heureusement que notre nature nous sauve de l'onésinesse, du malaise dans lequel nous plongerait une argumentation qui voudrait avoir une preuve de toute chose. Comme le dit Pascal, l'impuissance où nous sommes à démontrer les réalités les plus familières ne nous permet pas de douter d'elle, mais au fond de douter de la raison elle-même. En outre, non seulement une confiance est nécessaire pour vivre, personne ne se demande s'il passe par la porte ou par la fenêtre, personne ne se demande deux fois s'il a fermé le gaz, enfin quelques-uns, mais en outre, un acte de foi préalable, une confiance est nécessaire même pour penser, même pour interroger. Vous avez des gens qui disent qu'ils n'ont pas de conviction, qu'ils s'interrogent, qu'ils sont prêts à toutes les questions. C'est bien. Mais celui qui s'interroge, aime-t-il la réponse ? Si celui qui s'interroge s'interroge pour avoir la réponse, il est déjà finalement dans un acte de confiance. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus sensible chez Descartes. S'il y a vraiment quelqu'un qui ne barguigne pas, qui n'a aucune hésitation, aucun scrupule, aucune angoisse d'aucune sorte, c'est bien Descartes. Et ce qui a permis à Descartes de pousser le doute au plus loin, c'est que précisément il ne doute pas. Enfin, il ne doute pas. Il y a un acte de foi dans la véracité de son existence, un acte de foi dans l'exercice même de la raison qui précède toute interrogation, sinon on n'aurait même pas la force de s'interroger. En ce sens, la confiance signifie non seulement que nous sommes assurés du réel, mais que nous sommes assurés de ce que ce réel a du sens. Nous ne pourrions pas réfléchir. Vous êtes venu ce soir, là. Je vous remercie. J'admire que vous ayez bravé le froid pour venir. Vous êtes venu ce soir pour. Vous aviez peut-être regardé le titre de la conférence qui est Qu'est-ce qui est digne de foi ? Vous n'êtes pas venu en disant qu'est-ce qu'il va encore nous raconter comme connerie ? Ça va être absurde. Vous ne seriez pas venu. Un pacte nous lie. Vous pensez que cette question est sensée. Vous pensez que de ce que je vais dire peut naître quelque chose de sensé, c'est-à-dire quelque chose que vous pourrez faire vôtre. L'absurde est une pause intenable. Car il ne peut pas y avoir vraiment de pensée, de lecture, de culture de l'absurde. Il ne peut pas y avoir vraiment de littérature de l'absurde. Il ne peut pas vraiment y avoir de poésie de l'absurde, encore moins évidemment de philosophie de l'absurde. C'est toujours une pause, comme le scepticisme. Parce que dès que je commence de réfléchir, donc ce fameux pacte qui plonge ses racines beaucoup plus profond que tout ce que nous pouvons examiner, m'autorise à penser que je dois avoir confiance et je réalise que j'aurais dû mieux vérifier car je n'ai pas pris mon exemplaire d'Alain. Vous voyez ? Je n'ai pas vérifié. Et donc, j'aurais voulu vous lire une belle page d'Alain, mais je vous la résume. Alain disant que nul n'ouvre un livre sans lui accorder une confiance première. Et il est impossible, même si c'est un philosophe, même allé à l'égard duquel j'ai une hostilité première, il serait insupportable de le lire en postulant que c'est absurde. Donc la confiance est nécessaire comme non seulement pacte avec le réel, mais pacte avec le sens. Voilà pourquoi d'ailleurs la belle page de Malraux nous met par sa lucidité au bord de ce que serait l'absurde. Mais elle en est sauvée par sa beauté. Car cette page qui est belle, déjà en elle-même, comporte une rédemption par rapport à cet absurde. Et celui qui arrivera à faire de l'absurde, qui arrive à faire de l'absurde une tragédie, une œuvre musicale, un poème, eh bien déjà, il a anticipé sur cet absurde et il renoue avec la confiance. Enfin, non seulement la confiance est le pacte qui nous relie à la vie, non seulement c'est le pacte de l'exercice même de la raison, et donc la foi précède la raison, ça il faut toujours le dire. Un acte de foi précède la raison. Il y a une foi en la raison, c'est ce que dit Hegel. Je m'époumonerais bien en vain à démontrer rationnellement qu'il faut mettre sa confiance dans la raison, puisque si je démontre rationnellement qu'il faut mettre sa confiance dans la raison, c'est que je mets ma confiance dans la raison. En outre, une confiance est nécessaire pour vivre ensemble. Ici, cette confiance, qui ne concerne pas donc seulement le pacte avec la vie, qui ne concerne pas simplement le pacte avec la raison et les textes, mais ici, cette confiance signifie que nous ne pouvons sans doute pas vivre ensemble s'il n'y a pas des accords profonds mis hors du champ de la polémique, mis hors discussion, ce qui scelle notre unité comme société, comme collectivité, comme communauté, prenez le mot que vous voulez, nous échappe en grande partie et donc nous fonde au-delà de nous-mêmes. Récemment, un auteur que je trouve très important, mais il n'a pas besoin de mon avis, comme Habermas, s'est avisé de le découvrir. Je dis quelques mots de Habermas, qui est un des grands penseurs que nous avons actuellement. Il a bientôt 100 ans, 90 ans, je ne sais plus combien. Enfin, on lui souhaite longue vie. La question que pose Habermas est la suivante. Comment pouvons-nous vivre ensemble? Comment pouvons-nous dialoguer alors même que plus aucune conviction absolue n'est possible. Alors que tout est jeté en pâture dans cet espace ouvert de l'opinion publique où chacun est invité à participer et à rendre raison de ce à quoi il croit sans pouvoir s'abriter derrière une quelconque autorité. Alors, quelques-uns d'entre vous connaissent sans doute la réponse qui fut célèbre de Habermas et de Karl Otto Appel, son ami, qui disent, donc c'est ce qu'ils ont appelé l'éthique de la discussion, discours éthique, dans la discussion, la seule chose absolue, c'est les règles de la discussion. Quiconque rentre en discussion doit accepter les règles de la discussion. Et or, ces règles à discussion, elles ne donnent pas de contenu. Elles donnent la forme d'une discussion convenable, dans laquelle chacun, par exemple, rentre en acceptant a priori qu'il pourra changer d'avis. Et c'est une des règles. Si vous rentrez dans une discussion sans accepter a priori que vous pourrez changer d'avis, ça n'est plus une discussion, c'est une manipulation, c'est ce que vous voulez. Donc il y a des règles de la discussion qui rendent possible la discussion. Ces règles sont toutes formelles et elles fondent une démocratie libérale qui n'a plus besoin de s'appuyer sur des réalités transcendantes, sur des affirmations transcendantes. C'est une règle procédurale. C'est la procédure même qui nous permet de négocier, de discuter et de vivre ensemble. Or, tout dernièrement, voilà-t-il pas que Jürgen Habermas se dit ça marche quand même pas très bien. Et il nous serait sans doute difficile d'échapper au chaos si le lien social n'était pas fondé sur quelque chose de plus solide que les simples procédures juridiques. Parce que les procédures juridiques, elles sont précisément livrées à l'opinion, elles sont mouvantes, elles sont au fond une certaine traduction des rapports de force, beaucoup plus que de la raison. Et voilà pourquoi Habermas, qui est athée, hein, qui se présente comme athée, dans ses dernières œuvres, se dit faudrait peut-être laisser une place à la religion si on veut pouvoir vivre ensemble. La religion n'est pas un problème, mais une chance. Tout le monde actuellement traite la religion comme un problème. Le patriotisme de la Constitution, donc au fond c'est lui le patriotisme de la Constitution, c'est-à-dire n'est valable que la règle. Le patriotisme de la Constitution signifie que les citoyens ne s'approprient pas les principes de la Constitution uniquement dans leur contenu abstrait, mais aussi concrètement à travers le contexte historique de leur passé national spécifique. Si les contenus moraux de droits fondamentaux doivent prendre corps dans les dispositions spirituelles, le moment cognitif, le moment de connaissance, ne suffit pas. À elle seule, une prise de conscience morale et un consensus mondial dans l'indignation morale contre les atteintes aux droits de l'homme ne suffiraient qu'à l'intégration minimale des citoyens d'une société mondiale avec une constitution politique. Entre les citoyens d'un État, une solidarité si abstraite, si médiatisée soit-elle par le droit, ne naît que lorsque les principes de la justice trouvent à s'insérer dans le réseau plus dense d'une culture orientée selon des valeurs. Une modernisation de la société qui se mettrait à dérailler pourrait parfaitement fragiliser le lien démocratique que doit viser l'État démocratique sans qu'il puisse pour autant le rendre juridiquement contraignant. On arriverait alors à cette situation, les citoyens des sociétés libérales de bien-être et de liberté transformés en monades singulières et agissant dans leur propre intérêt, qui ne font plus que brandir leurs droits subjectifs comme des armes les uns contre les autres. On s'y croit. Et quelques pages plus loin, il en conclut. À l'opposé de l'abstention d'une pensée post-métaphysique qui ignore tout concept en général de vie bonne, les Écritures saintes et les traditions religieuses articulent des intuitions concernant la faute, c'est le prochain sujet, la rédemption, la sortie salvatrice d'une vie éprouvée comme dépourvue de salut. Pendant des siècles, ces intuitions ont été subtilement déchiffrées et maintenues vivantes. C'est pourquoi quelque chose peut rester intact au sein des communautés que forment les groupes religieux, quelque chose qui s'est perdu ailleurs et que le pouvoir professionnel d'expert est incapable de restituer. Voilà la question posée qui nous permet de conclure cette première partie. Donc, oui, c'est vrai, je ne peux pas faire autre chose que croire pour vivre, pour penser et même pour vivre avec les autres. On pourrait bien se méfier de cet argument, on peut bien s'en méfier. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Comte Sponville se proclame ici même, quand j'avais dialogué avec lui, athée, pour la bonne raison que ça l'arrangerait de croire. Je me méfie du désir de croire. Je me méfie de la nécessité où je suis de croire. C'est trop facile. On serait tenté de lui dire, si c'est facile, lâchez-vous. Hein. Mais donc, voilà, on peut se dire que cet argument n'est pas très convaincant si je suis effectivement dans la nécessité de croire. Voilà pourquoi, et c'est ce qui me conduit à la deuxième partie, il est nécessaire d'éclairer, mais je serai rapide là-dessus. Je veux bien revenir si vous trouvez que mon développement n'est pas assez approfondi. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de s'interroger sur les rapports entre ce que l'on croit et ce qui est rationnel ou raisonnable, ce que la raison peut articuler. Car chacun, comme le dit Pascal, ne consent à croire que pour autant qu'il peut fournir des raisons. La difficulté est la suivante. La difficulté, c'est que croire, ça n'est pas, contrairement à la définition scolaire, tenir pour vrai. Croire, c'est tenir pour réel. C'est être intéressé à la réalité de cet objet. Et donc, la question du rapport entre croire et savoir nous renvoie à la portée de ce que nous pouvons savoir. Or, concernant le donné extérieur, empirique, ce que nous pouvons savoir reste à jamais de l'ordre du probable. Les sciences empiriques, la physique, la chimie, la biologie, etc., l'histoire, sociologie, nous mettent en présence de connaissances qui sont éminemment révisables. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elles sont dans le champ du discutable. Et ces connaissances sont éminemment révisables parce que, quant à la réalité des faits, du donné empirique, je ne sais pas comment dire, les connaissances que nous avons restent un certain degré d'approximation. Jules César. Je crois comme vous que Jules César a existé. J'avoue n'avoir pas vérifié. C'est un oui-dire. On m'a raconté que Jules César a existé. Alors je peux dire « a franchi le Rubicon »,« a envahi la Gaule »,« a été assassiné par son neveu »,« ah, est né d'une césarienne ». D'accord. J'ajoute des caractères, mais ces caractères, je les ajoute partie par partie, fragment par fragment. Je construis une sorte de portrait robot de Jules César, mais le portrait robot de Jules César que je construis jamais ne coïncidera avec la face unique de Jules. Et donc notre connaissance est toujours, en ce qui concerne la réalité, hein, données empiriques, notre connaissance est toujours une connaissance approchée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'ordre de l'action, nous ne pouvons pas faire l'économie du risque. Parce que quand bien même je me serais donné toutes les garanties sur la solidité du pont, quand bien même j'aurais fait tous les dessins, toutes les mesures, toutes les projections, toutes les expériences sur la solidité du pont, il y a un moment où il faut passer dessus. Le risque, c'est la part de l'action que l'action seule peut valider. Et le moment où il faut passer dessus, c'est précisément donc ce moment où je vais quitter l'ordre du possible pour passer à celui du réel. Donc, la plupart des savoirs objectifs dont nous disposons nous satisfont et nous suffisent. Ce que l'histoire, la science peut nous apprendre. D'ailleurs, si un beau matin, on me dit que finalement Jules César n'a pas existé, selon le joli mot de Cocteau, c'était un fou qui se prenait pour lui, ça ne me dérangerait pas. Ne m'empêchera pas de dormir si on me dit que Jules César n'a jamais existé. Je dirais, tiens, c'est bizarre. Il faut que Goscinny et Uderzo soient entièrement révisés. Et donc, quand bien même j'ajouterais un renseignement de plus, reprenez l'image du portrait robot, quand bien même j'ajouterais une donnée de plus, le jugement ne changera pas de modalité. La distance entre le possible et le réel est une distance infinie, même si j'ajoute une information de plus. Prenez la structure de l'atome. J'ajoute une information. Mais au fond, à chaque information que j'ajoute, la modalité de ma connaissance ne change pas, elle reste probable. Et la preuve qu'elle est probable, c'est qu'elle est éminemment révisable, et heureusement, toute l'histoire de nos progrès tient à cela. Donc, la question soulevée par le rapport du savoir au croire, c'est que croire, ça n'est pas simplement croire que quelque, enfin, ce n'est pas simplement adhérer au fait qu'une proposition est vraie. C'est adhérer à la réalité de son objet. Or, je n'ai qu'un moyen d'adhérer à la réalité de son objet, c'est d'agir. Si bien que, entre le savoir et le croire, il y a nécessairement un saut. L'exemple le plus simple, je crois l'avoir déjà pris ici, mais alors je le répète avec plaisir, parce qu'il m'amuse toujours, donc tant qu'il m'amuse, je le reprendrai. C'est sur nos paquets de cigarettes, il est marqué « Fumer tue ». Tout le monde le sait, personne n'y croit. Le croire ne naît pas d'un manque de savoir. Je sais que fumer tue. Et ce n'est pas parce que je le sais que je suis dispensé d'avoir à faire l'acte d'adhésion qui, comme le dit bien Thomas d'Aquin, va faire que parmi les alternatives, je vais en élire une par un acte de la volonté. Mais il y a des exemples plus troublants encore. Par exemple, nous savons tous que nous mourrons. Personne n'y croit. Un type comme moi ne devrait pas mourir. S'il y a un sage, effectivement, ça serait celui. Le sage, c'est celui qui sait et qui vit en fonction de ce qu'il sait. Mais pour savoir et vivre en fonction de ce qu'il sait, cela suppose, comme le dit bien Hume, que c'est le mot favori de Hume, qu'il fasse un pas de plus et non pas un pas en arrière. Ce pas de plus, c'est celui qui franchit l'espace du croire au savoir. Que peut la raison pour la foi ? Par bonheur, par exemple, en ce qui concerne l'existence de Dieu, c'est là-dessus que j'avais fait un exposé l'an dernier, nous ne manquons pas d'arguments. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu manquent vraiment de culture. Il n'y a pas de preuve si, effectivement, on veut qu'une preuve soit une démonstration irréfragable, une démonstration qui arrête toute question. Il n'y a pas plus de preuve de l'existence de Dieu que de la culpabilité d'Omar. Omar m'a tué. Et il y en a autant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une enquête et qu'il y ait des preuves, une cigarette sur le lieu du crime, un cheveu ou un test ADN, n'exonérera pas le juge d'avoir à prononcer une parole. Et ce que tout le monde attend, ce n'est pas le test ADN, mais la parole du juge. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens qui font des enquêtes en recherche de parenté ont besoin de la parole du juge beaucoup plus que d'un test en labo. Ce qu'ils veulent, c'est un arrêt et non pas un indice. Les preuves que nous avons nous donnent des indices. Ces indices sont fortement convergents, sont rationnellement, on peut rendre compte de leur présence par la voie la plus simple, mais cela restera donc de l'ordre des indices. Nous ne manquons pas d'arguments pour l'existence de Dieu et même la philosophie produit les arguments les plus convaincants pour l'existence de Dieu. Il est donc faux de dire qu'il n'y a pas de raison à donner pour l'existence de Dieu. Les raisons les meilleures historiquement dans la philosophie vont dans le sens de l'existence de Dieu. Mais jamais la foi n'est la conclusion de la raison. Les démonstrations de l'existence de Dieu me permettent de penser que ce que je vis n'est pas absurde, mais jamais elles ne produisent la raison. Jamais la foi n'est l'acte conclusif d'une démonstration. Pas plus pour le juge qui rend une sentence que pour le croyant qui se met à genoux. Parce que à chaque fois, il faut qu'il fasse un pas de plus. Et tout en étant assuré que ce à quoi il croit est fondé. C'est pourquoi il faut éviter le mot « preuve de l'existence de Dieu » qui est abusif. Il faut éviter le mot « démonstration de l'existence de Dieu ». Il faut dire comme Descartes, qui était un homme simple, « raison de croire ». Quelqu'un peut avoir des raisons de croire. « Noa ratione » par une nouvelle raison. Donc ces raisons permettent aux fidèles de penser qu'il ne viole pas sa nature, il ne crucifie pas sa raison pour croire. Il peut croire avec sa sensibilité, peut croire avec sa volonté, peut croire avec sa raison, il peut croire avec tout son être. Ça veut dire que je crois quelque chose de raisonnable. Jean-Luc viendra-t-il ce soir ? Je crois quelque chose de raisonnable. Mais l'adhésion, le consentement à cette proposition n'est pas déduit de la raison. Plus. Et c'est là que Kierkegaard nous a beaucoup éclairés. Non seulement ce consentement n'est pas déduit de la raison, mais pour qu'il y ait consentement, il faut en quelque sorte, dit Kierkegaard, lâcher les raisons. Tant que je tiens les raisons de croire, au fond, je suis encore dans le possible. Donc Kierkegaard ne dit pas qu'il n'y a pas de raison de croire. Mais il dit l'acte de foi consiste à lâcher les raisons. Et donc, si je suis assuré de la fidélité de ma femme parce que je l'ai fait suivre par des policiers, comment ça s'appelle ? Détectives, merci. Je manque de fréquentation. Donc, si j'ai fait suivre ma femme par des détectives privés, faisant suivre ma femme par des détectives privés, je suis assuré de sa fidélité, mais il est sûr que je ne crois pas en elle. Pour croire en elle, il faut que j'arrête mon contrat avec les détectives. Alors, il est bon de temps en temps d'avoir des détectives qui nous disent « Bon, c'est pas complètement absurde de croire en elle. » Mais l'acte par lequel je croirai en elle est l'acte par lequel je lâcherai les preuves. Tant que je tiens la preuve, je suis dans le soupçon. C'est une des plus belles pages de la philosophie. Elle se trouve dans Les miettes philosophiques. Comment l'être de fait du Dieu sort-il de la preuve ? C'est-à-dire comment passe-t-on de la preuve au fait ? La chose se produit-elle si directement ? N'en est-il pas ici comme des poupées de Descartes ? Alors, Kierkegaard se trompe, il confond les poupées de Descartes avec les poussas. Vous savez, les poussas, c'est ces poupées qui se basculent, donc il faut les lâcher pour qu'elles se remettent debout. Tant que vous les tenez, la preuve est comme un poussa qu'il faut lâcher pour qu'ils se remettent debout. Il confond avec l'éludion de Descartes, bon, peu importe. Car il vaut plus grand de se tromper. Ça nous rassure. La chose se produit-elle si directement ? N'en est-il pas ici comme des poupées de Descartes ? Dès que je lâche la poupée, elle se redresse. Dès que je la lâche. Il me faut donc la lâcher. De même pour la preuve. Aussi longtemps que je la tiens en main, l'être de fait ne surgit pas. Pour cette raison, du moins, que je suis en train de le prouver. Mais dès que je lâche la preuve, l'être de fait est là. Mon acte est de lâcher. Mon apport personnel, meine Zutat, est de lâcher. Ne doit-il donc pas aussi entrer en ligne de compte ce petit instant, si court soit-il, il n'a pas besoin d'être long, puisqu'il est un saut. Si petit soit-il, même réduit à l'instant, ce clin d'œil doit compter. Entre le possible et le réel, il y a un saut. Si bien que même si je suis totalement assuré que ma décision est fondée, il n'empêche que j'aurai encore le sentiment de prendre un risque. Et que je pourrai encore me demander si j'ai fermé le gaz. Ceci concerne, pour ainsi dire, l'ordre naturel de la croyance. Première partie, il est nécessaire de croire, on ne peut pas vivre sans croire. Le type qui dit « je ne crois à rien », il ne doit pas bien y arriver, ou alors il faudrait avoir cette héroïcité de Malraux. Cette croyance, nous l'avons comprise comme l'acte propre de celui qui fait le saut. Un saut qui n'est pas absurde. Il n'est pas du tout question de dire qu'il faut croire sans preuve, qu'il faut croire parce que c'est absurde, mais parce que le passage du possible au réel comporte toujours un saut. Toutefois, c'est le cas de le dire, dans notre question « qu'est-ce qui est digne de foi ?», il faut prendre plus au sérieux le mot « foi », que pour l'instant j'ai assimilé à la croyance naturelle. aux décisions que nous prenons quand nous agissons, quand nous prêtons serment, quand nous risquons. Ce serait un malentendu de ne présenter la foi en Dieu que comme un risque beau à prendre. Comme le mariage, c'est un risque beau à prendre. Mais ce n'est pas tout à fait semblable à la roulette russe non plus. Il faut remarquer, il y en a qui disent que la différence entre le mariage et la roulette russe, c'est qu'à la roulette russe, on gagne quelquefois. Mais le... le... Et donc, vanter... je souligne ça parce que on voit souvent dans les consciences, particulièrement chez les jeunes gens, cette perception assez esthétisante de l'acte de foi. Qu'il y allait, c'est un risque, c'est une décision. Mais jamais Kierkegaard ne dit que c'est un risque à prendre comme ça, tout à trac, comme si c'était un jeu. Comme si c'était un geste romantique à faire, parce qu'il c'est bien plus beau, parce qu'il est inutile, etc. L'essentiel de la foi consiste dans la certitude d'être précédé. La différence, remarquez en cela l'analogie avec le mariage, est, je la prolongerai parce qu'elle n'est pas fausse. Le mariage n'est pas une décision pure. Je suis précédé. Je suis précédé, par exemple, par l'amour de ma femme. Et j'ai pas. Il y a un très beau film de Romer, très beau film de Romer, c'est pratiquement un pléonasme, qui s'appelle Un beau mariage, dans lequel l'héroïne annonce à ses copines J'ai une nouvelle. Les copines, dis-le. Je me marie. Waouh, super. Et les copines disent avec qui? Elle dit je sais pas encore. L'héroïne prend une pure décision vide de se marier. C'est assez juste, car la décision de se marier précède bien, d'une certaine manière, la personne que nous allons rencontrer. Mais c'est complètement abstrait de se dire « je me marie comme ça parce que je voudrais me sortir du marasme et encore faut-il donc à ce mariage je sois appelé par une rencontre. Appelé par quelqu'un qui sollicite mon attention, qui donc me précède. Et donc, je vais ici développer la foi comme vertu théologale. Car il faut se rappeler que du point de vue chrétien, la foi est dite vertu théologale et que la foi est une grâce qui vient de Dieu, et vertu théologale, ça signifie que cette vertu, à la différence des vertus morales, a Dieu pour source et Dieu pour objet. C'est pour ça qu'elle est théologale. Et qu'elle est ordonnée à la différence des vertus morales, elle n'est pas ordonnée au bonheur, mais à la béatitude. Au passage, je me permets de vous rappeler que il y a quatre vertus morales, la justice, la tempérance, la force, la sagesse, la justice, la tempérance, le courage, la sagesse, que ces vertus, elles contribuent à notre bonheur, à une vie sage, à une vie harmonieuse autant que possible. Les vertus théologales, je le rappelle, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et ces vertus théologales, donc, elles ont pour objet la béatitude et pas seulement le bonheur. Et elles sont toutes, d'ailleurs, elles sont hiérarchisées, ces vertus, car elles sont toutes orientées vers la charité, nous le verrons. Dire que la foi est une vertu théologale veut dire que celui qui croit en Dieu, ou celui qui dit croire en Dieu, celui qui fait acte de foi, se reconnaît, donc, comme je le disais, précédé. C'est, par exemple, ce que dit le cardinal Ratzinger dans un livre assez synthétique qui s'appelle « La foi chrétienne », dans lequel il disait la philosophie, alors il distingue la foi et la philosophie après les avoir réunis. La philosophie est le produit de la réflexion que l'on essaye ensuite de traduire en parole, du reste toujours secondaire par rapport à la pensée, et en principe susceptible d'être remplacée. La foi, au contraire, se présente à l'homme de l'extérieur. C'est là sa marque caractéristique. Elle n'est pas une idée personnelle de moi, mais la parole d'un autre. Elle n'est ni conçue ni pleinement concevable par moi. À ce titre, à ce moment-là, ça serait une idole. Si c'était moi qui le construisais, là, je serais dans la perspective d'une idolâtrie. À ce titre, précisément, elle m'atteint, m'interpelle et m'engage. La double structure, une interpellation venant du dehors, « Crois-tu ?» et ma réponse « Je crois », lui est essentielle. Rien d'anormal, donc, si l'on est amené, sauf des cas rares et exceptionnels, à dire « Ce n'est pas à la suite d'une recherche privée que j'ai trouvé la foi, mais je l'ai reçue. Elle m'a, pour ainsi dire, devancé. La foi ne peut pas et ne doit pas être le fruit de la réflexion. » C'est en ce sens qu'elle est obscure. Car si l'on parle de foi, c'est que cette adhésion est dans une certaine obscurité. Mais cette obscurité tient précisément au fait que je ne suis pas en présence d'une déduction. Si je ne peux pas complètement dire pourquoi je crois, c'est parce que je ne suis pas seul. Si je ne peux pas complètement dire pourquoi j'aime ma femme, c'est parce qu'on est deux. Si je pouvais complètement dire pourquoi j'aime ma femme, elle serait un objet. Elle serait une déduction de ma jugeote. Et si donc je suis dans une histoire mystérieuse et impossible à appréhender complètement, c'est parce qu'on est deux, je ne suis pas au centre de cette histoire. Et si j'étais celui qui récapitule les raisons, si j'étais celui qui peut mettre au jour toutes les raisons de son acte, cela voudrait dire qu'au fond, j'ai produit moi-même cette idée et elle me laisse complètement seul. Donc c'est un point fondamental que la foi consiste à se reconnaître comme précédé. Deuxième idée concernant la foi comme vertu théologale, la définition de la foi comme vertu théologale, elle est celle que saint Paul exprime dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la certitude des biens que l'on espère. C'est justement cette définition que commente saint Thomas d'Aquin dans l'article que je vous ai fait passer. Et en commentant cet article, saint Thomas d'Aquin dit que au fond, la foi est le commencement de la vie éternelle, une préfiguration de la vie éternelle dans cette vie relative et charnelle par l'espérance même. Et donc, la foi consiste à prendre au sérieux son espérance. Ce que l'on voit bien dans le texte de Malraux. Parce que qui voudrait dire qu'il n'a pas la foi devrait en quelque sorte se juger sur son désespoir. Ça a de la gueule. C'est grand. Mais au fond, ça a quelque chose de démoniaque. Et donc voilà, croire à la réalité des biens que l'on espère, Cela veut dire que par l'espérance, ici-bas, nous avons en quelque sorte des arts sur la vie éternelle et que la foi nous y introduit. Et enfin, dire que la foi est une vertu théologale, c'est dire qu'elle est tout entière ordonnée à la charité. Vous le savez, dans la béatitude, la foi s'effacera, l'espérance s'effacera, seule demeurera la charité. La foi s'effacera dans la vision béatifique, l'espérance de même, mais la charité n'en sera pas pour autant diminuée, au contraire. Les vertus théologales sont toutes... Saint Thomas d'Aquin dit que la charité est la forme et la fin de la foi, c'est-à-dire ce en vue de quoi la foi existe, ce qui met la foi en mouvement. Et évidemment, telle est la différence avec ce que Thomas d'Aquin et puis à sa suite, si j'ose dire, Fabrice Hadjadj appelle la foi des démons. Puisque dans une conférence qu'il a faite ici, Fabrice Hadjadj rappelait que les démons disent à Jésus « Je te connais, tu es le Fils de Dieu, tu es venu nous chasser, etc. » Et donc les démons savent qui est Jésus. Exactement comme nous, nous savons que fumais-tu. Ils savent qui est Jésus, mais cette vérité, ils ne l'aiment pas. Ils se refusent à en vivre. Ils se refusent à la faire leur. De telle sorte que je posais au début la question, peut-on laisser la stèle vide ? D'une certaine manière, la réponse est oui. Car ce qu'il y a de pire, en quelque sorte, ça n'est pas de la laisser vide. Ce qu'il y a de pire, c'est de mettre quelque chose dessus qui serait une sorte de bouche-trou de notre raison ou de notre orgueil ou de que sais-je. Et ce que l'on voit bien donc dans l'exemple même de la foi des démons. C'est la raison pour laquelle ce qui est digne de foi, c'est ce qui nous permet d'entrer dans l'aventure d'un amour inépuisable. Et cet amour inépuisable suppose qu'il ne vienne pas, en quelque sorte, se figer dans une idole. La foi, c'est ce qui devrait nous permettre à tout moment de surmonter la possibilité de l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est ce qui devrait nous permettre à tout moment de façonner une image qui soit faite à la ressemblance de nos désirs ou à la ressemblance de nos craintes. Et en cela, même si le propos a parfois été trop convenu, il est juste de dire que l'athéisme est une véritable attitude spirituelle. Et que, sans doute, quelqu'un qui, comme Malraux, essaye d'épouser une attitude athée, essaye d'aller au bout de ce que serait une attitude athée, est certainement plus proche de l'expérience de la foi que celui qui, comme beaucoup d'entre nous, comme moi en tout cas, si souvent mettent sur la stèle une idée, une conviction, un pouvoir, une relation, etc. Et qui finalement retiennent le désir. Quand Sponville a tort, si la foi, c'est la certitude des biens que l'on espère, cela veut dire que la foi va vraiment dans le sens de l'infini désir dont nous sommes porteurs et qui n'est pas simplement la projection de notre finitude, mais qui est la réponse à l'appel qui nous a précédés dans la parole de Dieu, dans la vie des saints, dans la vie de l'Église. Quiconque dit « je crois » dit en même temps « nous croyons ».